Benoît Thibault, je suis président de l'association April, l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Donc je vais donner le point de vue associatif sur le logiciel libre dans les administrations.
Jean-Paul de Gorsduma, je suis ingénieur au ministère de la Défense, plus exactement dans une nouvelle direction qui vient de se constituer, la Direction générale des systèmes d'information et de communication. J'ai assuré pendant 5 ans la responsabilité au niveau des services du Premier ministre, au niveau de la TICA et au niveau de la DAE, la responsabilité de la promotion du logiciel libre dans les administrations pour les services du Premier ministre. Je vais vous faire un petit historique de ce qui s'est fait, je dirais, dans les dernières années, faire un point un petit peu dans les administrations, comment on utilise le logiciel libre et quelles sont les grandes utilisations, et puis on essaiera de faire un peu de prospective.
Bonjour à tous, donc je suis Eric Mahé, Sun Microsystems, donc je travaille à la division marketing. Donc je suis responsable de technologie, dont la première d'entre elles est Java, donc qui depuis maintenant 11 ans, donc en quelque sorte pave la dimension stratégique de Sun Microsystems. Je m'occupe également de la Liberty Alliance, qui est donc un projet que Sun a initialisé en octobre 2000 et qui correspond à la notion d'identité. Comment est-ce que les internautes peuvent avoir une identité transversale sur Internet sans forcément se départir en quoi que ce soit de leur vie privée. Également, je m'occupe donc de l'open source de manière générale, et à ce titre-là, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec l'Attica. Et donc, comment est-ce que Sun, en tant qu'industriel, entend agir et rentrer en interaction avec les communautés du logiciel libre pour, par la suite, donc fournir notamment aux administrations, dans lesquelles je trouve des communautés extrêmement actives, les éléments en termes d'infrastructure logicielle en permettant de répondre au mieux aux différents besoins. Tel sera le point de vue que j'exposerai ce soir.
Bien, merci. Donc, je vous souhaite aussi la bienvenue, évidemment, pour un petit peu parler de tout ça. Alors, moi, avant d'aborder, comme c'est un sujet qui est quand même assez pointu, hein, même si y a pas mal de choses à dire, je pense, et qui nous touche et nous concerne tous. Donc, avant de vraiment aborder la chose, j'aimerais simplement avoir un petit rappel pour en tout cas les auditeurs ou les convives que nous avons ici, qui sont peut-être les plus néophytes et les moins avisés sur le sujet, ben déjà d'expliquer peut-être ce que c'est exactement un logiciel libre. Je sais que Benoît a l'habitude de ce genre de questions, mais je vais simplement introduire là-dessus, et après, bon, on va pouvoir entrer vraiment un peu plus dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas où...
Je vais commencer le... Alors, donc, un logiciel libre, c'est un logiciel que l'on peut utiliser librement, que l'on peut étudier, voir comment il fonctionne, et si on le souhaite, modifier librement, que l'on peut redistribuer librement, et donc on a aussi le droit de redistribuer des versions qu'on a modifiées. Voilà, c'est la définition par les 4 libertés du logiciel libre.
Très bien. Donc maintenant, la question, elle va être toute simple, c'est à savoir, qu'en est-il actuellement dans l'administration de ce logiciel libre ? Qu'en est-il actuellement ? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'administration s'est déjà emparée un petit peu de ce phénomène ? Où c'est qu'on en est ? Avant d'aller voir un peu plus loin dans les détails, peut-être à l'avenir, ou les difficultés que ça pouvait engendrer.
De manière générale, ça dépend des administrations. En particulier, ça dépend si on veut s'intéresser à la situation internationale ou pas. Globalement, on constate quand même qu'il y a des changements importants un peu partout sur la planète. Pour donner des exemples de migration, de passage vers le logiciel libre dans les différents endroits de la planète, il y a eu en Extremadour, en Espagne, une distribution de logiciels libres qui a été faite. Il y a eu des migrations prévues au Bundestag en Allemagne. Il y a eu des annonces par l'administration du Massachusetts de migration vers des formats ouverts. Il y a l'État du Brésil qui est fortement impliqué dans tout ce qui est logiciel libre, qui organise des conférences et qui a fait des migrations importantes dans son administration. On a des migrations qui sont prévues aussi par l'État de Canberra en Australie, dans plusieurs États en Suisse, comme les cantons de Vaud et de Genève. Il y a eu en Asie énormément d'annonces et de migrations en Inde, en Thaïlande, en Malaisie, en Chine, en Corée. On a des changements, il y a un passage par exemple vers Open Office au ministère de la Défense à Singapour. Il y a des annonces de passage vers des systèmes GNU Linux dans la poste tchèque. Plus près de chez nous, on a des migrations au ministère de l'Équipement, des annonces comme le projet ADEL, qui est un projet pour l'administration électronique, C'est un projet sur plusieurs années qui annonce des migrations vers le logiciel libre au niveau de l'administration française. Donc il y a eu par exemple les changements dans la gendarmerie qui a basculé vers OpenOffice, et ainsi que vers Firefox pour tout ce qui est navigation web et vers Thunderbird pour ce qui est messagerie électronique. Des changements côté ministère de l'Agriculture, vers notamment côté serveur, vers du logiciel libre. Il y a pas mal de choses qui se passent aussi dans l'éducation nationale. On a eu des annonces par le ministère de la Justice belge vers OpenOffice et vers des postes avec des distributions GNU Linux dessus. On voit qu'un peu partout sur la planète, il y a eu des changements dans les administrations. Pour donner d'autres types qui ne soient pas seulement des développements logiciels ou du déploiement de logiciels, des actions qui soient plus contributives. Un bon exemple est l'Afrique du Sud qui a mis en place les structures pour traduire dans ses 11 langues nationales les logiciels utilisés par son administration. Ou alors la mise en place d'un dépôt de logiciels libres aux États-Unis par 7 États et 4 municipalités, qui sont des engagements un peu plus. Avec une contribution importante. Donc il y a de nombreux exemples de migration vers logiciels libres. On voit que côté serveur, c'est quelque chose d'assez classique. C'est à peu près ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le paysage informatique en général, en dehors des administrations, qu'il n'y a pas de problème côté serveur et que de plus en plus, il y a maintenant des migrations côté poste de travail.
D'accord, très bien. Peut-être des compléments à apporter un petit peu à cette liste très exhaustive, parce qu'apparemment, effectivement, le logiciel libre très bien entamé, en tout cas, son insertion dans les administrations. Je ne sais pas, Jean-Paul, comme tu fais partie de cette administration, peut-être as-tu des détails déjà dans les différents...
Je vais faire un focus sur l'administration française. En fait, on peut qualifier les débuts d'une utilisation importante des logiciels libres dès lors qu'il y a un rapport qui a été produit par un député, un rapport remis au Premier ministre, le rapport Carsenac. C'est dans avril 2001, ça. Alors, ça ne veut pas dire que les logiciels libres n'existaient pas avant. Ils existaient, mais de manière un petit peu... c'est-à-dire que c'était plutôt des informaticiens, des ingénieurs qui avaient installé des logiciels libres, mais ils n'avaient pas fait de ça de manière cohérente et connue. Le rapport Carsenac a ouvert certaines portes et les gens ont commencé à s'exprimer. Et surtout, il y a eu une action qui s'est menée au niveau gouvernemental, puisque à l'époque, c'était la mission de soutien technique à l'information et à la communication, la MTIC, qui a mis en place un poste à temps plein pour promouvoir l'usage des logiciels libres dans l'administration. Donc c'était quand même relativement nouveau. Et donc, un certain nombre de documents ont été produits, de manifestations de bonnes pratiques, recherches mise en place d'ateliers du libre, de journées du libre. Il y a eu 2 journées du libre, il y a eu 6 journées du libre. Voilà. Et puis également, je le rappelle, un document qui expliquait ce qu'étaient les licences du logiciel libre, donc le guide d'utilisation des licences de logiciel libre qui expliquait comment utiliser les logiciels libres, notamment vis-à-vis de notre code des marchés publics. Si on regarde au niveau des outils et des logiciels, les précurseurs, c'était peut-être le ministère de la Culture, où il y a eu 400 serveurs, et l'administration fiscale aussi, qui, dès 2001, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, 34 millions de contribuables, dès 2001, nos feuilles d'impôt étaient traitées sur des machines Linux. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais tel est fait. Il y avait quand même 23 000 utilisateurs. Donc tout ça, c'était le marché, le programme Iliad. Et il s'est avéré qu'en fait, ce programme, il n'y a eu aucun incident. Voilà. Et finalement, on a constaté que ça fonctionnait très, très bien. Ensuite, il y a une seconde opération qui a été menée au niveau de l'administration fiscale. C'était une opération autour d'un marché J2E. Où on s'est aperçu que finalement l'usage des logiciels libres dans ce domaine était aussi un vecteur de diminution des coûts important, bien que ce soit pas le seul. Il y a d'autres caractéristiques des logiciels libres. On y reviendra peut-être sur l'intérêt qu'il y a d'utiliser des logiciels libres aux administrations.
Mais effectivement, la baisse de coûts en est une. Alors, ça, c'était les débuts. Ensuite, je dirais, il y a eu la prise de conscience. Et là, on revient sur ce que disait Benoît tout à l'heure, hein, le ministère de l'Équipement, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Alors, je pourrais citer à chaque fois, hein, typiquement, la démarche du ministère de l'Équipement, hein, sa démarche d'architecture, elle s'appelle Equi comme équipement et libre comme logiciel libre. Ça veut tout dire, hein, c'est sa démarche équilibre. Le ministère de l'Intérieur a été le premier à instancier Open Office sur ses équipements. Le ministère des Affaires étrangères produit du code qu'il met en ligne, produit des frameworks qu'il met en ligne. Les services du Premier ministre, Agora, qui est sur une base PIP, ils ont très largement utilisé ces outils. Pareil, le ministère de l'Agriculture, l'Éducation nationale, etc. Et je dirais maintenant, on en arrive à une phase, c'est la phase de la généralisation dans certains domaines. Alors, on parlait de la gendarmerie, c'est effectivement ceux qui sont plus en avance. L'ensemble des gendarmes aujourd'hui utilisent Open Office, écrit à de grands industriels comme SAP, comme Oracle, pour leur imposer de faire fonctionner leur logiciel sur les suites bureautiques, c'est-à-dire de supporter les formats Open Document, de supporter les standards complets du web, et notamment vis-à-vis avec Firefox. Et donc, je dirais, la situation évolue. Il n'y a pas que l'utilisation des logiciels libres pour les administrations, il y a aussi un point important qu'il ne faut pas oublier, c'est le respect des standards ouverts. Voilà, un petit rapidement.
D'accord. Bon, ben, et donc, ben, je vais poser la question maintenant peut-être à Eric qui, Jason, a peut-être contribué à cette insertion un petit peu du logiciel libre dans l'administration. Quels sont les différents points qui ont été traités par Sun,
en tout cas ? Alors, on a contribué en toute modestie, notamment au travers du projet OpenOffice, qui est un projet que Sun a démarré lorsque nous avons racheté la société Star Division en Allemagne. Et dans lequel donc, on avait d'emblée, dès le rachat, donc en 99, promis de mettre dans le domaine de l'open source l'ensemble du code donc de Star Office, qui à l'époque et qui est devenu projet Open Office en l'an 2000. Et si je cite ce projet-là dans le domaine du rapport entre l'administration et l'open source, c'est que le premier point, ce projet-là s'est accompagné donc, de la définition d'un format de fichier qui s'appelait donc le format de fichier openoffice.org à ce moment-là et qui est devenu par la suite Open Document Format, qui a été validé par l'Oasis en 2005 et par l'ISO en 2006. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un projet open source qui est décidé vers l'utilisateur, c'est non seulement la libération du code source, mais c'est également la capacité à créer des formats de fichiers d'échange qui sont eux-mêmes ouverts. Et deuxième point, c'est que nous avons eu, nous, Sun, un changement complet de relation entre donc, l'industriel que nous sommes et l'ensemble des administrations au niveau mondial. Et le vecteur de ce changement a été essentiellement Open Office. Pour des raisons relativement simples, c'est que d'abord, écrire de manière électronique à travers un traitement de texte est aujourd'hui une activité majeure dans l'ensemble des administrations et que donc la capacité à pouvoir s'approprier ses propres outils dans le domaine du libre a fait partie d'un vecteur de communication différent avec Sun. Le deuxième point, c'est qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas si je me trompe, à peu près entre 50 et 70 communautés linguistiques autour du projet Open Office et que cette capacité de s'exprimer dans sa propre langue a été également un vecteur de diffusion et démocratisation au sein des administrations. Car s'il y a bien une capacité que chaque pays doit s'offrir, c'est la possibilité d'une écriture électronique dans sa propre langue. Donc cette possibilité de localiser dans sa propre langue, alors que commercialement, il n'y a aucun marché dans le birman, dans le breton, dans le basque, dans le catalan et dans des langues qui sont complètement marginales, fait aussi que chaque pays peut s'approprier ses propres outils dans le domaine aujourd'hui de cette diminution de la fracture numérique. Donc ce que nous, on a vu, c'est un changement du rapport entre l'industriel et le gouvernement et, évidemment, comme il a été mentionné, une participation de ces mêmes entités gouvernementales au processus communautaire. Ce qui a été également pour nous un complet changement. On sort cette fois, disons, de l'idée que l'industriel construit sa propre application et après la délivre dans le marché, pour cette fois avoir une capacité à pouvoir interagir avec la communauté et faire en sorte que nos propres développeurs puissent fournir d'emblée les solutions que les gouvernements, notamment, et ils ont été partie prenante au niveau mondial, fonctionnent. En fait, dernier point, c'est que ça également nous a permis de pouvoir toucher des sphères que nous ne touchions pas avant, en comptant par exemple dans un certain nombre de pays d'Amérique latine comme le Pérou ou le Brésil, ou par exemple au Pérou, aujourd'hui, eh bien, pour acheter un logiciel non open source, il faut le justifier. Donc on renverse complètement la vapeur de ce qui a été jusqu'à présent, ça a été annoncé en 2005, donc dans la constitution péruvienne, désormais, on fait par défaut tout achat, ou enfin plutôt toute acquisition de logiciels doit se faire au travers d'un logiciel libre, et c'est en fait l'achat d'un logiciel non libre qui doit faire l'objet d'une dérogation, en quelque sorte. Donc d'emblée, évidemment, tout ça fait partie d'une transaction, pour dire que là-dessus, l'arrivée du libre dans le domaine de l'administration a permis à l'industriel comme ça de pouvoir entrer en interaction de manière extrêmement forte avec cette base d'utilisateurs.
Bon, ben, je vais rebondir là-dessus, mais juste avant, je veux quand même préciser que si dans la salle ou si sur le net, il y a le chat, étant donné qu'on retransmet en direct, il y a des questions ou une interrogation sur une des interventions qui ont lieu, hein, il n'y a aucun problème, hein, je suis là pour ça, je pourrais passer la main. Mais moi, je vais rebondir justement sur le, bon, un petit peu le contexte international que les logiciels libres ont dans les administrations, dans les plusieurs pays. Hein, on en a entendu depuis le début, que ce soit par Benoît, bon, plus spécifiquement par Jean-Paul en France, mais par Benoît et Eric en tout cas, que ça touchait beaucoup de pays. Hein, et j'aimerais savoir, c'est a priori, dans ce cas-là, c'est quel est le pays qui est le plus en avance? Bon, on parle du Pérou qui a carrément inscrit dans les tablettes de loi un petit peu ce phénomène-là, mais quel est le pays qui est le plus en avance, qui vraiment peut-être défend le plus cette idée de cette insertion de logiciels libres dans l'administration? Bon, pas obligé, j'attends pas des chiffres, mais bon, a priori, lesquels sont les plus en avance? Je sais que le Brésil a beaucoup d'avance aussi, que bon.
Clairement, c'est les pays qui ont pris des engagements fermes de choisir prioritairement du logiciel libre pour les besoins de leur administration. Donc, de fait, c'est eux qui se retrouvent à avoir la plus grande utilisation. Donc, ça couvre le Brésil, ça couvre une partie des États dans les États fédéraux, comme pour la Suisse, l'Australie, ou les changements autour de le Massachusetts, par exemple. Ces changements-là entraînent des changements importants derrière. Quand une administration bascule, ça fait quand même aussi basculer à la fois ses fournisseurs et ses clients, enfin, ses usagers.
Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'en France, ça je demande peut-être à Jean-Paul ou évidemment à tous, mais en France, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retard par rapport à ça? Avant d'aborder la grande question, on va patienter un petit peu pour que je l'aborde. À votre avis, en France, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retard par rapport justement à cette insertion? Ou est-ce qu'on s'y met? Est-ce que ça va vraiment démarrer? Est-ce qu'on est appelé, en tout cas, est-ce que c'est envisagé qu'on aille aussi loin que certains comme le Brésil ou ce genre de choses?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit en retard, mais j'ai du mal à quantifier parce que cette course, je fais plus de logiciels libres que toi, ça me paraît un peu difficile. Je ne sais pas comment l'exprimer. Si elle s'exprime au travers d'une loi. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a eu deux propositions de loi en France. Hein. Alors, ce n'était que des propositions de loi, deux ou trois d'ailleurs. Hein. Je crois que voilà. Et elles ne sont pas passées. En fait, il s'est avéré, je parlais du rapport Kersenak. Le rapport Kersenak a considéré qu'effectivement, il n'était pas convenable ou il n'était pas opportun en France de faire du. D'avoir une loi. Alors on peut beaucoup débattre sur cette question. C'est pas l'objet, hein, mais je suis plutôt de l'avis, moi, qu'il vaut mieux pas légiférer, qu'il vaut mieux laisser faire, parce qu'on n'est pas dans un pays, nous, où finalement tout s'impose. Enfin, ce genre de choses s'imposerait par les lois. On n'impose pas, je sais pas moi, une architecture J2E par les lois. On n'impose pas une architecture .NET par les lois.
Dommage.
Non, parce que justement, on sacralise et après, si on veut utiliser du ZOP, ben on peut plus utiliser l'architecture ZOP, par exemple. Et je trouve ça un petit peu ennuyeux. Moi, je souhaite, en tant qu'architecte des systèmes d'information, avoir du choix, avoir un choix le plus large possible, et éventuellement même choisir un logiciel propriétaire, si le logiciel propriétaire est plus répond mieux à mon besoin. Encore une fois, ce qui guide nos choix, c'est le besoin. C'est le besoin, et ce besoin, comment on le qualifie? Et j'aimerais bien qu'on parle de cette question, parce que ça me paraît important.
C'est la fameuse grande question qui va suivre.
Et donc, je réponds quand même. Je pense qu'en France, on est quand même assez porteur, assez innovant. Ça a été souligné à plusieurs moments. Sur OpenOffice, on est plutôt, on va probablement parler du référentiel général d'interopérabilité. À ma connaissance, il y a aujourd'hui trois gouvernements qui se sont prononcés. Hein. Il y a le gouvernement de l'État du Massachusetts, le gouvernement du Danemark récemment, et puis le référentiel, donc le gouvernement français au travers du référentiel général d'interopérabilité. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout nouveau. Il faut savoir quand même qu'à l'intérieur du cadre commun d'interopérabilité, qui lui doit remonter à 2002-2003, au niveau du format texte, le format XML était préconisé comme étant un format d'avenir, et on commençait déjà à parler de... D'ailleurs, je crois que c'est OpenOffice est nommément cité. Donc, il ne me semble pas... Là, tout à l'heure, j'ai cité des cas, l'administration fiscale, la gendarmerie. La gendarmerie a quand même fait beaucoup parler d'elle. Je ne crois pas qu'on soit en retard, non pas.
Bon, en fait, moi, ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai, notamment par exemple en ce qui concerne OpenOffice. Clairement, la France, en tout cas ce que moi j'ai comme retour vis-à-vis des équipes d'OpenOffice qui travaillent donc à Hambourg en Allemagne, parce qu'elles sont toutes basées donc en Allemagne, c'est que clairement la France, et en termes de base installée et d'activités communautaires, notamment dans le groupe linguistique français, très largement en tête. L'activisme aujourd'hui, et c'est pas les gens d'Arsa Plata qui me contrediront, sur la capacité qu'a une communauté de s'approprier donc le phénomène OpenOffice, est certainement l'une des premières communautés au monde. Et c'est également le reflet de la communauté d'utilisateurs, donc 300 000, 500 000 postes, essentiellement dans le domaine de l'administration, aujourd'hui constituent la base installée OpenOffice en France. Donc strictement sur la partie OpenOffice, la France est non seulement pas en retard, mais aujourd'hui clairement un leader. Alors, qu'est-ce que ce sera dans l'avenir? Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, les rapports de masse de population ne vont pas en faveur de la France. Il y a 150 millions d'habitants au Brésil, il y en a pour l'instant que 60 en France, et on ne parle pas donc de l'Asie. Mais aujourd'hui, en termes d'activité, il me semble que la France, sur la partie open office proprement dite, est très largement en avance.
Mais du côté en fait de l'utilisateur lambda, pas uniquement aussi sur le côté administratif dans l'administration, même si open office est l'outil, je pense... peut-être qui est le plus appelé à être utilisé dans l'administration, courrier, tableur, base de données.
Non, là je parlais sur la partie OpenOffice, mm-hmm. dans l'administration.
Dans l'administration, d'accord, ouais. D'accord, c'est bien de préciser. Alors peut-être, oui, Benoît,
du point de vue de l'utilisateur, du citoyen, le point le plus important, c'est pas réellement que l'État ait choisi ait imposé du logiciel libre ou pas. Ce qui compte, c'est qu'on n'oblige pas le citoyen à utiliser un logiciel propriétaire donné, que l'État l'oblige pas à avoir recours à tel ou tel logiciel, et globalement qu'il ait le choix du logiciel qu'il veut utiliser, donc qu'il y ait un respect de l'interopérabilité, des formats ouverts pour le citoyen aussi.
Alors bon, si j'ai posé cette question, qui est, je l'admets un peu, bon voilà, c'était simplement parce que je voulais arriver à la grande question, la fameuse, c'est pourquoi cet intérêt soudain, ou qui a pris un petit peu son temps, on va dire, sur le logiciel libre dans les administrations. Quels sont les intérêts pour l'administration d'aller vers le logiciel libre? Alors j'imagine quelques-uns. Maintenant, je pense que vous allez les citer, que vous allez peut-être les développer, voire en citer quelques autres qui sont peut-être pas toujours évidents. Peut-être, en tout cas, je ne sais pas, dans le cadre du ministère de la Défense. Bon, la gendarmerie s'est appropriée, a priori, donc Thunderbird, Firefox, OpenOffice. Pour quelle raison? Ça pourrait être un exemple qui pourrait déjà donner quelques pistes.
Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je travaille pour le ministère de la Défense. Et ce qui intéresse notamment le ministère de la Défense, c'est d'assurer la maîtrise de son système d'information. Ça me paraît relativement nécessaire et obligatoire. Mais ce qui est vrai pour le ministère de la Défense, ça peut être vrai aussi pour l'administration fiscale, pour le ministère de l'Intérieur, pour le ministère de l'Équipement, ou même tout simplement la Société Générale, la BNP, Sun, ce que je veux dire, Renault, tout industriel aujourd'hui. Pour tout industriel, le système d'information est devenu est au cœur de son fonctionnement, au cœur du fonctionnement de l'entreprise, au cœur du fonctionnement des administrations, et en assurer la maîtrise est incontournable.
Donc je précise simplement, en assurer la maîtrise, c'est d'avoir le code source pour savoir exactement ce qui se passe derrière. Alors, quoi.
Avoir le code source, ça peut être un des éléments, mais c'est probablement pas le seul, à mon sens. C'est par exemple pouvoir déjà architecturer, choisir l'architecture, choisir les briques de son système d'information. Ne pas, dès lors qu'on fait le choix d'une brique, qu'on tire la ficelle et tout vient derrière, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble de votre système d'information qui est construit au travers de votre brique. Je ne citerai pas de cas, mais vous avez tout de suite vu je peux en citer, mais bon. Il apparaît clairement qu'aujourd'hui, que si un composant de votre système d'information, la messagerie, l'annuaire, l'outil collaboratif, la suite bureautique, vous impose les autres éléments, vous impose votre système de gestion de base de données et que vous avez un seul éditeur qui est capable de pouvoir vous le donner, eh bien, vous n'assurez plus la maîtrise. Vous êtes bien en pièce émaillée avec, avec un fournisseur. De la même façon, vous pouvez vous souhaitez maîtriser l'évolution de votre parc, le rythme auquel vous voulez faire évoluer votre parc. Si pour vous, changer vos équipements, changer vos postes de travail, vous avez décidé de le faire tous les 5 ans parce que ça vous paraît normal de le faire tous les 5 ans, parce que ça correspond à votre budget, parce que ça vous semble à peu près logique, et qu'on vous dit maintenant c'est tous les 2 ans maintenant qu'il va falloir changer vos postes de travail, vous comprenez bien que ça a un coût non négligeable. Et donc ça, c'est de cette maîtrise dont je parle. Hein. Donc je ne parle pas de la maîtrise du code source, qui est intéressante certes, mais dès lors qu'on fait du développement. Je rappelle quand même que le corps de métier de l'administration n'est pas de faire du développement. Hein. On n'est pas là pour faire du développement. On est là pour faire des services de police, pour faire des services de défense, des services de santé, des services d'éducation, etc. Hein. Le cœur de notre métier n'est pas de développer des applications. Quoique non, ça ne nous empêche pas de développer les applications dont on a besoin. Donc, cette maîtrise, elle est assurée aussi par la pérennité, c'est-à-dire avoir la capacité dans le temps à pouvoir nous assurer les composants qu'on choisit. Cette maîtrise aussi, elle est liée à l'indépendance, à notre indépendance de choix. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de pouvoir continuellement ne pas être pieds et mains liés avec un fournisseur. Et puis, y a également, dès lors qu'on a des composants, si on peut les mutualiser, tout à l'heure je parlais de développement, on en fait quand même quelques-uns, ou on en suscite quelques-uns. En tous les cas, nous avons des procédures d'achat sur lesquelles on peut impacter. Quand on fait un achat d'un logiciel, si on peut le faire développer pour l'ensemble des administrations, vous comprenez bien que vous avez gagné... Vous avez gagné pas mal d'argent, hein. Ça évite de racheter continuellement la même chose. Donc il y a peut-être certains composants qu'on peut faire développer pour la mutualisation. Donc ça, c'est un petit peu des piliers, hein, je dirais, d'une stratégie. Et puis, il s'avère qu'au travers de ces piliers, quand on regarde bien, les logiciels libres, ils répondent sur tous les plans. J'en ai oublié un pilier, je vous prie de m'excuser, mais c'est l'interopérabilité. Hein. L'interopérabilité et l'usage des standards ouverts. Voilà. Donc, c'est au travers de ces piliers que finalement, c'est ce qui a conduit naturellement les administrations à considérer que les logiciels libres permettaient, de par ces composants qui sont, qu'on peut choisir, de par la non-dépendance à un éditeur, de la part du respect des standards, nous a amené les administrations à privilégier l'usage des logiciels libres. Et de plus en plus, on le retrouve dans les politiques logicielles des ministères, ou même dans le plan stratégique pour l'administration électronique. Hein, je vous rappelle qu'il y a quand même un paragraphe dans la politique logicielle du plan stratégique pour l'administration électronique qui laisse une place à l'utilisation des logiciels libres. Voilà. Je laisse la place. Peut-être je pourrais encore certainement...
Peut-être Benoît, tu vas pouvoir nous donner toi le regard plutôt du côté du monde du libre qui a été interpellé par l'administration et quel a été un peu cet appel.
Je voudrais rajouter un point, parce qu'il y a un point qui est important. Bon, c'est sur les aspects coûts. Il y a l'aspect, on parle d'argent public là quand même. Donc les aspects mutualisation sont importants parce qu'il n'y a pas de raison que un logiciel qui soit développé, typiquement un logiciel de gestion des appels d'offres qui est développé par une région, soit redéveloppé par une vingtaine d'autres régions, chacune dans leur coin. Donc il y a tout intérêt dans ce type de situation à mutualiser les développements et les coûts. Donc ça, c'est des aspects importants. Il y a un autre point qui est, en dehors de ce qui a été évoqué sur les indépendances techniques, économiques, les problèmes de sécurité nationale, de pérennité et autres, il y a un point qui peut être aussi intéressant pour un État, c'est de soutenir son industrie nationale. Donc actuellement, en Europe, il y a quand même une part importante du développement informatique qui se fait autour du logiciel libre. Et côté européen, on a plutôt un tissu riche en PME et en développement logiciel libre que des gros éditeurs de logiciels propriétaires qui seront plutôt américains en l'occurrence. Donc il y a, ça peut être des choix politiques ou des choix économiques pour une administration de recourir à ces industries nationales ou à ces PME. Il y a un autre point qui est une question qui peut se poser, qui est un cas un peu particulier. C'est le cas notamment aux États-Unis où les logiciels, les données qui sont produits par le gouvernement fédéral sont placés dans le domaine public. Parce qu'il a été des Américains considèrent que ce qui est payé par les citoyens américains doit revenir aux citoyens américains et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une appropriation à un moment. Donc les logiciels qui sont produits à ce niveau-là sont dans le domaine public et c'est valable pour les données aussi. Ça, c'est des points importants. Ça veut dire que les gens peuvent bénéficier de ces logiciels, de ces données. C'est typiquement pour ça qu'on trouve les photos de la NASA et autres qui sont disponibles au téléchargement et pour une utilisation pour diverses utilisations qui sont disponibles sur Internet. C'est aussi pour ça qu'on a accès aux données météo des États-Unis, etc. Et ça, c'est des choix qui peuvent être faits au niveau des pays. C'est pas forcément des choix qui sont faits dans tous les pays. Et là, il y a des questions qui se posent de savoir quels sont les choix qui sont faits vis-à-vis des développements qui sont payés par le public, qui sont faits par les administrations. Donc typiquement en France, ce n'est pas le cas. Des productions de données qui sont faites par l'IGN pour les données géographiques ou par Météo France sur les aspects météo ne sont pas accessibles, ne sont pas disponibles, ne sont pas reversées au public, disponibles pour tout le monde. Donc, après, il y a des choix politiques qui peuvent être faits sur ces questions-là.
Très bien, oui. Donc, Eric.
Je rajouterais quelques points. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec justement une personne du ministère de la Défense, donc qui était un directeur de division, qui me disait Monsieur Maillet, c'est facile. Si aujourd'hui vous voulez recruter un bon et, ou les bons, et il parlait a priori plutôt de polytechniciens, il faut leur faire du libre et du Java. Sans ça, ils vont ailleurs. Donc il y avait derrière aussi une volonté de pouvoir recruter de nouvelles têtes ou des jeunes et que un des facteurs de recrutement, c'était leur capacité à leur offrir des technologies qu'ils connaissaient, sur lesquelles éventuellement, philosophiquement, ils adhéraient plus qu'à d'autres technologies. Bon, on a évoqué la dimension coût, indépendance nationale. Je pense aussi qu'il y a une possibilité de participation au travers des communautés qui est également un facteur important. Les administrations entendent être aujourd'hui actrices de leur propre système d'information et le libre permet justement de pouvoir avoir une dimension beaucoup plus profonde dans ces activités-là. On l'a vu dans le cadre, par exemple, de ce qui s'est passé dans la gendarmerie qui est devenu un acteur actif dans, par exemple, tout ce qui est logiciel de... qu'on appelle ça de gestion de parcs, etc., et qui leur permettant de pouvoir gérer des configurations transversales au niveau de leur installation, dans lequel ils sont vraiment un élément très actif de cette communauté.
Alors donc, en fait, apparemment, quand même, le logiciel libre a tout intérêt à s'immiscer, même voir un peu plus, voir se généraliser, a priori, même s'il faut tout de même prendre en considération que certains logiciels libres sont peut-être moins performants que certains logiciels propriétaires. En tout cas, Jean-Paul, tu parlais en tant qu'utilisateur, c'était quand même ingénieur au ministère de la Défense. Ce n'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit, c'est plus peut-être une question de performance aussi des logiciels.
Le logiciel libre ne couvre pas nécessairement tous les domaines. Par exemple, je ne sais pas moi, le domaine de la veille... la veille techno, il existe des logiciels propriétaires qui sont aujourd'hui plus performants que les logiciels libres, oui.
Alors, on a parlé de l'avantage, en tout cas économique. Je pense que, vu en ce moment le contexte actuel, la conjoncture du moins, il y a beaucoup d'intérêt sur ce domaine-là. Mais est-ce qu'on ne risque pas, cela dit, de faire cette transition, en faisant cette transition, que cela nous coûte quand même un sacré investissement, ne serait-ce qu'en formation, et puis savoir qu'un logiciel libre, bon, n'est pas toujours gratuit, puis surtout qu'il y a toute une maintenance, tout ce qui accompagne un logiciel, surtout dans des administrations aussi grandes que celles qui sont les administrations publiques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au niveau du coût ou une difficulté? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous freine, qui nous fait aller petit à petit je ne sais pas, est-ce que vous avez une...
Il y a un aspect de la réponse qui est qu'on ne s'intéresse pas, d'un point de vue d'une administration, pas uniquement à des choix à court terme. Donc il y a des points qui sont intéressants. Avoir une solution pas chère, mais qui emprisonne, au sens où on va se retrouver avec des données dans un format propriétaire, avoir besoin de renouveler sa solution tous les deux ans, etc. C'est pas un choix qui est pérenne d'un point de vue technique. Et économiquement, c'est pas un choix intéressant non plus sur le long terme. Or, une partie de la problématique des administrations, c'est aussi de pouvoir travailler sur le long terme, justement.
D'accord. Ouais, peut-être un complément.
Sur cette problématique du coût, J'ai un exemple, hein, tout simple, encore une fois la gendarmerie, puisque c'est eux qui sont capables de pouvoir nous donner des chiffres. Hein, le coût de leur suite bureautique tel qu'ils l'utilisaient, c'est-à-dire qu'avant qu'ils passent à OpenOffice, ils n'utilisaient que le traitement de texte, donc ils n'utilisaient que Word. Ils n'avaient pas de tableur, ils n'avaient pas de PowerPoint. Et donc ça leur coûtait 2 millions d'euros par an de renouvellement. Le coût de formation à OpenOffice des 70 000 gendarmes qui sont passés, c'est 650 000 euros. C'est, bien sûr, c'est pour une année et après c'est fini. Donc voilà, donc, en une année, hein, ils ont baissé de 2 millions d'euros à 650 000 euros. Et l'année prochaine, ça leur coûtera probablement beaucoup moins, puisqu'il y aura beaucoup moins de gendarmes à former. Et puis il s'avère que les gendarmes ont gagné parce que maintenant ils ont, en plus d'avoir un traitement de texte, ils ont aussi un petit système de gestion de base de données. Et puis ils ont eu une formation, parce qu'en fait c'est ça, quand on passe au libre, on se dit « ah, il faut faire de la formation ». Donc on dit il faut faire de l'accompagnement et on fait de la formation. Mais jusqu'alors, on ne s'était jamais trop posé cette question de la formation. Et cette formation, enfin, du moins, elle était faite continuellement dans le temps, mais il n'y avait pas de programme voulu et dans des temps courts de formation. Et donc là, justement, c'est fait à l'occasion du passage au logiciel libre. Donc il y a une meilleure utilisation de ces logiciels de la part des utilisateurs parce que justement, ils ont eu une petite formation. Ils découvrent, pour ceux qui avaient déjà utilisé des outils bureautiques, ils découvrent des fonctionnalités qui existaient dans leurs outils auparavant. Mais comme ils ont eu cette formation, ils découvrent et donc ils travaillent plus rapidement. Donc je dirais c'est... le coût, c'est une chose, mais il y a aussi la capacité qu'ont les utilisateurs à travailler plus vite et plus facilement. Voilà.
Et à long terme, on se rend compte qu'a priori, ce sera des économies qui seront faites.
Voilà. Donc, moi, je pense pas que... Alors, au contraire, hein, on dit que le logiciel coûte moins cher. Moi, j'ai pas utilisé... Dans le raisonnement que j'ai utilisé, justement, j'ai pas utilisé ce critère, parce que le coût, c'est celui qu'on met toujours en avant. On disait, ah, vous allez passer au logiciel libre, c'est gratuit. Et donc, surtout là, c'est un point sur lequel il faut insister. Ce n'est pas gratuit. Ça peut même y avoir un coût d'entrée qui peut être relativement important. Mais au final, on y gagne, c'est clair. Hein, oui, tout à fait.
Donc, un exemple, c'est le retour du Brésil qui a sur 6 mois, ils ont fait des migrations dans 15 de leurs administrations et ils ont estimé avoir gagné en 6 mois 9,9 millions de dollars, par exemple. Donc il peut y avoir, évidemment, il y a des coûts de formation, il y a des coûts de mise en place, etc. Mais il peut y avoir des coûts, d'ailleurs à court terme, sur 6 mois, c'est assez rapide, sans parler de tous les coûts à plus long terme.
Nous, en interne chez Sun, donc, quand on a racheté la société d'art division, donc, on a fait effectivement des coûts de migration des 45 000 postes donc, que nous avions, qui tous n'étaient pas équipés en logiciel propriétaire, mais dont une grande partie l'était quand même. En disant, mais maintenant, on va utiliser nos propres produits, c'est quand même évidemment une tautologie en termes de fonctionnement. Et on a vu qu'au bout de simplement 3 ans, on fait le passage dans l'utilisation de nos propres outils, donc, qui étaient vraiment gratuits, mais qui à l'époque étaient déjà à travers OpenOffice pour l'ensemble de la planète, a très largement amorti l'ensemble des autres coûts de cette transition-là. Donc, mon expérience personnelle là-dessus, c'est que j'ai été, moi, amené à faire, je pense, plusieurs centaines de propositions dans le cadre donc, des migrations des outils Microsoft vers des outils OpenOffice et StarOffice. Et je peux vous garantir que chaque fois, et c'est vrai pour l'administration, pour n'importe quelle société, notamment en France, parce que je ne connais que le marché français, qu'il a été question de prix, donc d'opposition de prix, c'était forcément une fausse barbe. Forcément. Derrière, il y avait soit une volonté de faire pression sur les coûts par rapport à d'autres fournisseurs, soit la volonté de migration était strictement politique. Quand celle-ci était motivée par des raisons beaucoup plus profondes de motivation, de libération par rapport à un fournisseur, d'indépendance, etc., le prix était forcément secondaire. Et là-dessus, la volonté de migration était forcément plus forte que les coûts engendrés, qui existent, de toute façon, quelle que soit la nature de la migration. On passe de Windows 2000 à XP, il y a un coût de migration qui, aujourd'hui, en termes de responsabilité informatique, se pose la question du coût. L'arrivée de Vista va avoir un coût considérable. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est envisagée en tant que telle? C'est des questions que, systématiquement, nous renvoyons à nos propres clients et qui, parfois, les découvrent, hein, alors qu'elles sont déjà budgétées dans les 3 ou 4 années à venir. Donc ces coûts de migration, en soi, sont tellement partis de l'habitude de fonctionnement, qu'il faut parfois réveiller un peu les esprits ou les instincts pour voir qu'on peut éventuellement les modifier. Et enfin, dernier point, c'est que sur cette partie strictement coût, encore une fois, il faut bien être conscient que la capacité à pouvoir, par exemple, motiver un certain nombre d'une partie de sa propre population de développeurs ou d'utilisateurs vis-à-vis de l'arrivée de nouveaux composants, de nouveaux logiciels, a un coût en quelque sorte immatériel, ou en tout cas un bénéfice immatériel qui est beaucoup plus difficile à mesurer et qui donc doit être par contre pris en compte sur la capacité à renouveler par exemple les esprits, les habitudes, les motivations, les communautés, les périmètres, les interactions entre les gens. Et que là, bien souvent, ça n'est jamais pris en compte. Et quand on voit l'enthousiasme, par exemple, des équipes de la gendarmerie, là, le groupe ICA, sur la migration, on voit bien que ça faisait partie d'une politique globale de gestion de ressources humaines que de permettre justement à cette communauté de s'approprier. Et là, il y a des bénéfices qui sont pour l'instant totalement non calculables.
Alors oui, une question du public. Oui.
Bonjour, je fais partie d'un ministère qui est assez accro au logiciel pas libre. Je veux dire, j'ai vécu aujourd'hui l'immigration 2000-2003 pendant 3 jours de nos serveurs, d'une petite administration d'à côté, un service déconcentré d'un ministère. On a un ministère qui, effectivement, se pose la question de l'immigration de d'Office 97 vers une suite bureautique. Et nous, on voit très bien laquelle qui va arriver, parce que toutes les questions qu'on pose, effectivement, sur le vrai coût de la migration, sur le coût des formations, sont toujours évacuées. Et on a, il y a 2 ans, choisi un outil de gestion de contenu qui a coûté 1 million d'euros, qui n'a pas encore produit un seul effet, quand même. Et moi, ce que je pose la question, c'est quid du contrôle financier par rapport à ça, quoi, parce qu'on a l'impression qu'on est en mode LOLF actuellement et les questions ne sont pas posées, quoi. L'efficacité de l'argent public par rapport aux résultats, je vois pas bien, enfin, je sais pas si on vous les pose, mais nous, on se les pose quand même et on a l'impression qu'on ne les pose pas, quoi. Ou alors, on va demander une suite bureautique très performante parce qu'il y a 3 utilisateurs qui ont des utilisations performantes, qui, eux, vont être dans les groupes de travail pour faire avancer le Schmilblick, mais pour 12 000 derrière, qui, eux, vont faire le traitement de texte et encore. Donc, oui, de la LOLF par rapport à ça, quoi, un petit peu.
La LOLF vient juste d'être mise en œuvre. Hein. Et effectivement, on est passé, je dirais, d'un système où on était en obligation de moyens, dans un système en obligation de résultats. Pour ce faire, la Direction générale de la modernisation de l'État met en œuvre un système d'audit. Alors, tout ceci est en train de se mettre en place. Est-ce que ça sera productif? Je ne peux pas le dire. Je crois que ce que vous soulignez, je pourrais aussi compléter par des exemples où on voit des dizaines de millions d'euros qui sont dépensés. Finalement, c'est l'argent du contribuable, mais j'arrête pas de le dire. Hein. C'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Et je dirais qu'il faut bien qu'à un moment donné, les gens qui ont fait ces choix, il faudrait qu'on puisse leur dire, les mettre devant le fait accompli, hein, ce que vous avez fait, à quoi ça a servi, faisons un audit pour savoir si vraiment ça a été utile. J'espère qu'on va pouvoir arriver à ces orientations où on pourra vraiment faire des audits. Bon, maintenant, il est difficile. Hein. On tombe toujours sur un aspect humain pour lequel il est toujours difficile de répondre aux connaissances. Enfin, c'est vrai que les gens se connaissent et ils quittent leur poste. Hein. C'est des choix qui ont été mauvais choix qui ont été faits à un moment donné. Ces mauvais choix, on les trouve un peu partout. Aussi dans les entreprises, dans les grandes entreprises, hein, dans les grosses boîtes, on retrouve aussi un petit peu ces erreurs. Hein. Voilà. Je crois que il nous appartient, nous, fonctionnaires ou personnels des administrations, de continuellement signaler, souligner ces incohérences. Et je crois qu'il faut continuellement le dire. C'est vrai que les logiciels libres sont un des moyens de pouvoir mieux répondre. Hein, On pourrait imaginer aussi qu'il y aurait des erreurs de fait, hein, et des gabegies faites aussi en logiciel libre. Hein. C'est pas impossible.
On pourrait imaginer un ministère qui déploie un blog pour 180 000 euros dans une opération de communication et qui, en parallèle, fait un projet de loi qui est une menace directe sur le logiciel libre. On pourrait l'imaginer. D'ailleurs, si on en parlait tout à l'heure du ministère de la Culture comme étant un ministère qui a été pionnier dans le développement du logiciel libre, ça serait bien que les gens qui travaillent pour cette administration-là fassent remonter l'information à leur ministre de tutelle et à son cabinet qu'il est en train de faire passer une loi qui va toucher gravement le logiciel libre.
Tu peux la citer, cette loi, même si
Bon, je parle du projet de loi sur le droit d'auteur, la loi d'AFSI, en l'occurrence.
Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, c'est pas dans l'administration, mais un jour, je vais voir, donc on a racheté la société Star Division, je vais voir un grand de la grande distribution en ligne que je ne citerai pas. Et donc, j'ai dit, écoutez, maintenant, voilà, on a une suite bureautique gratuite. Donc, éventuellement, est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble au fait que, bien, ça pourrait vous faire des économies? Il m'a dit, mais vous savez, pour moi, gratuit, c'est encore trop cher. Bon, voilà, c'est-à-dire, ça va être quand même compliqué, hein, pour pouvoir discuter. Mais bon, encore une fois, le rapport au prix est aujourd'hui une dimension qui est plus une dimension, soit, comme j'ai dit, une fausse barbe, soit, et on le voit aujourd'hui, typiquement, Microsoft vient d'annoncer que pendant 6 mois, donc l'accès gratuit à Office 12, enfin, je sais pas, la nouvelle version, pendant 6 mois. Hein, donc, on voit bien que l'enjeu est en train de se déplacer. Non pas, et on le voit bien dans le Web 2, enfin, toutes ces histoires qui tournent autour de cette capacité à faire les choses en ligne, en train de déplacer sur la capacité non pas à acheter une licence, mais exactement à activer un service, et au travers le service, toute la bataille sur le format. Hein, car la prochaine bataille, c'est pas de savoir est-ce que c'est oui ou non des logiciels gratuits, c'est qu'est-ce qui va se passer autour de ODF, donc Open Document Format, quel va être le format XML qui va devenir en quelque sorte l'encre, hein, d'Internet, si, par exemple, le protocole HTTP ou IPv6 en est le stylo. Voilà. La grande bataille de demain, c'est quel format standard XML va devenir l'encre de ce qui va se passer autour du web 2 ou 3 ou 12, peu importe.
Peut-être d'autres questions dans le public par rapport à ce sujet? Bon, moi, je vais en poser une autre, parce que donc, apparemment, c'est assez aisé à être convaincu un petit peu de cet intérêt. Maintenant, c'est ce que je me pose quand même comme question, c'est que cette transition vers le libre, si elle prend un peu de temps, si elle se fait petit à petit, on n'a pas assisté non plus à une révolution du jour au lendemain, est-ce qu'elle est aisée? Est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer simplement? Bon, on parlait tout à l'heure des coûts d'investissement qu'il peut y avoir au début, mais aussi peut-être, je ne sais pas, les éditeurs aussi peuvent parfois mettre un peu la pression de par leur lobby ou je ne sais pas. Est-ce que, en tout cas, dans les différentes expériences qui ont eu lieu, est-ce que ça s'est fait de façon aisée? Est-ce que ça a été accepté par les utilisateurs finaux? Est-ce que ça a été simple à contrôler, à mettre en place? Je ne sais pas, Jean-Paul, peut-être tu parlais de ton expérience. Ou est-ce que ça a rencontré des difficultés? Et si oui, lesquelles?
Alors, je vais répondre sur deux plans. Sur le plan, je dirais, des concepteurs des systèmes d'information et sur le plan des utilisateurs finaux. Sur le plan des concepteurs des systèmes d'information, on se rend compte que le libre les perturbe pas mal parce que ça rentre pas vraiment dans leur pratique. Quand on veut utiliser du libre, on trouve pas beaucoup d'éditeurs qui ont un super marketing et qui vous payent le resto et qui qui vous propose une solution toute faite, même s'ils savent très bien, comme votre outil de gestion de contenu, que de toute façon, ça ne va pas répondre aux besoins, mais ils ont suffisamment bien entourloupé les décideurs pour pouvoir vendre leur sauce. Donc voilà, donc c'est la situation qu'on connaît. Et dans le logiciel libre, on est face à des sociétés. Alors quand on a des éditeurs de logiciels libres, c'est souvent des gens qui sont un peu, c'est des technos, hein, donc ils sont ardus, c'est vraiment une population qui ne comprend pas du tout nos architectes, nos maîtres d'ouvrage et nos maîtres d'œuvre. Il y a vraiment tout un monde entre eux, ils se comprennent pas. Donc il faut des interfaces. Aujourd'hui, on trouve. Alors, nous, on a l'habitude de dialoguer avec des Capgemini, des Accenture, des grosses boîtes, hein, et par exemple.
c'est que des exemples. Hein. Et donc, ce qu'on constate aussi, c'est que ces entreprises, elles ont commencé un peu à utiliser du libre. Mais donc, de toute façon, elles arrivent quand même un peu à le changer. Donc, voilà. C'est quand même difficile hein, pour les concepteurs d'applications. Par contre, ceux qui sont plutôt techno, c'est-à-dire comme les gendarmes, par exemple, qui ont des capacités de développement, où ils mettent les mains dans le cambouis, où ils ont toute la chaîne de développement, du traitement des systèmes d'information, du décideur, du maître d'ouvrage, jusqu'au développeur, eh bien, jusqu'à l'exploitation, eh bien, on se rend compte que ces administrations ont plus de facilité, effectivement, à s'interpénétrer de l'utilisation des logiciels libres. Pour ce qui est des utilisateurs, jusqu'alors, quand vous utilisez un serveur Apache, quand vous utilisez un serveur Linux, quand vous utilisez du Tomcat, du JBoss, du Jonas ou autre, finalement, vous ne le voyez pas. Hein, ça, pour l'utilisateur, c'est du kiff-kiff. Où il commence à le voir, c'est quand on lui met du OpenOffice, du Firefox, du Thunderbird. Il est plutôt content, il suffit de bien valoriser. Donc pour bien valoriser d'ailleurs ce genre d'action, il faut quand même qu'il y ait une exemplarité. Il faut que les grands chefs manifestent de l'intérêt pour ces outils.
Surtout qu'apparemment, ils bénéficient d'une formation qu'ils n'avaient voilà. A priori pas reçue auparavant.
Voilà. Alors il y a quelques fonctionnements qui sont un petit peu encore sur le poste de travail, puisque voilà, l'utilisateur, ce qu'il voit, lui, c'est son poste de travail la plupart du temps. Ce qui gêne le plus, c'est vraiment un problème, hein, c'est le problème de l'agenda. Qui aujourd'hui, l'agenda, je pense, pris en lourd, hein, qui n'est pas encore résolu de la même manière que par des outils propriétaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment le problème le plus difficile qu'on ait à traiter au niveau des utilisateurs, d'une certaine catégorie d'utilisateurs. Et je dirais aussi la connexion des PDA et autres. Voilà. Pour ces deux populations, je dirais, il y a deux approches différentes, mais...
Alors ça permet de rebondir auprès d'Éric, mais aussi Benoît, c'est à savoir, est-ce que l'offre du libre, du logiciel libre, du moins les développeurs, les sociétés, les SS2L, j'en passe et les meilleurs, est-ce qu'elles sont suffisamment déjà nombreuses et puissantes pour pouvoir répondre aux besoins, à la demande, en tout cas des administrations, et aussi, est-ce qu'elles arrivent à être crédibles, parce que, comme le disait Jean-Paul, bon, ils n'ont peut-être pas les mêmes pouvoirs commerciaux, marketing, de communication que peuvent avoir les grands éditeurs. À votre avis ? Bon, même si Sun France, c'est pas non plus des petits, des petits développeurs dans une cave, mais bon, a priori, il y a beaucoup de choses. Donc,
pour reprendre encore une fois l'exemple d'OpenOffice, puisqu'on pourrait en prendre d'autres, notamment dans les serveurs applicatifs Java, qui dans l'open source sont très largement équivalents à ce qu'on peut trouver dans des offres commerciales, voire même d'ailleurs parfois implémentent plus rapidement les spécifications, ce qui est d'ailleurs une des dominantes du libre d'ailleurs, c'est leur capacité à pouvoir avoir un degré de réactivité beaucoup plus grand, puisque les efforts communautaires font que parfois, eh bien, il est plus facile de développer de manière, disons, distribuée et géographiquement 24/24 que quand on a des équipes concentrées sur un seul pays. Donc, sur la partie strictement, on va dire, mise aux normes et qualité d'implémentation, aujourd'hui, je ne vois pas de différence entre l'open source et les logiciels qui ne le sont pas. Et pour cause, puisque par exemple, dans le cadre d'un éditeur comme Sun, en fait, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun logiciel qui fasse l'objet d'un développement à 100% Sun. À un moment donné, forcément, la communauté fait partie des processus de développement. Et on avait vu, par exemple, dans le cadre d'Open Solaris, qui est donc la version open source de Solaris, ça faisait pas 3 jours qu'on avait mis le code source d'Open Solaris dans le domaine donc, de l'open source, donc sous licence CDDL, qu'on avait une remontée de debugs qu'aucun de nos clients n'avait jamais trouvé. Et qui étaient des bugs qui étaient, en quelque sorte, globalement, plutôt ennuyeux si on n'avait pas corrigé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, rien que dans la phase de test, il se trouve que la capacité à pouvoir rentrer en interaction avec la communauté est une garantie de qualité qu'aucun éditeur de logiciel ne peut s'offrir en termes de surface de population de test. Donc je dirais même au contraire, on va dans une possibilité de favoriser une qualité logicielle sur le plan industriel, parce que la communauté open source est aujourd'hui un facteur de réponse extrêmement active, que sur le plan industriel, il est de plus en plus difficile de s'offrir au niveau, en termes en tout cas, sur le plan économique. Enfin, dernier point, c'est que si je prends strictement l'exemple d'OpenOffice, nous, on se livre assez souvent à l'expérience suivante, c'est qu'on met un stagiaire devant un poste avec OpenOffice, donc on ne lui dit pas que c'est de l'OpenOffice, et il croit que c'est de l'Excel ou du Word, donc ça se passe très bien.
Benoît, toi qui dois connaître quand même, je pense, de nombreuses sociétés, en tout cas, qui travaillent dans le libre, est-ce qu'elles trouvent, elles, des difficultés peut-être à répondre aux demandes de l'administration, ou est-ce qu'elles ont du mal à se faire connaître et se faire valoir auprès d'elles ?
Il y a une partie de la problématique qui est que continuer à utiliser une solution qu'on a déjà, quelle qu'elle soit, choisir la solution qui est dominante, la solution qui est la plus utilisée, c'est la solution de tranquillité. Ça veut dire que le décideur qui va faire son choix et qui va dire je choisis de l'éditeur dominant en situation de quasi-monopole, personne ne va lui reprocher, on va difficilement lui reprocher d'avoir fait ce choix-là, il est à peu près tranquille et c'est une solution de ce point de vue-là.
Malgré les nombreux piliers cités par Jean-Paul tout à l'heure.
C'est une solution, c'est toujours plus facile de pas changer que d'aller de faire une migration importante. Donc bon, certes, quand on change de version ou autre, il y a une migration. Changer de solution, ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Après, il y a des avantages certains, il y a des avantages à le faire. Passer au logiciel libre, ça a des avantages, mais c'est quand même aller de l'avant. Faut faire un choix, il faut s'y tenir. Sur le nombre de sociétés, enfin, il y a de plus en plus de sociétés actuellement qui assurent du support autour du logiciel libre, qui font du développement, du support et autres. C'est pas un hasard d'ailleurs si il y a de plus en plus d'annonces de migration dans les ministères et dans les administrations. Et quand la Direction générale des impôts fait des choix de serveurs en logiciel libre, évidemment qu'ils cherchent à avoir une société capable de leur assurer du support derrière. Enfin, c'est valable pour toutes les migrations, il y a forcément des besoins d'avoir du service derrière et du support derrière. Donc oui, maintenant, on trouve de plus en plus du support autour du logiciel libre. Il n'y a pas toutes les sociétés de services, toutes les SS2I ont maintenant leur pôle logiciel libre qui est une partie de leur activité. Et il y a maintenant des sociétés de services spécialisées en logiciel libre. Donc oui, de plus en plus, on trouve du support.
Moi, je vous ai l'exemple, par exemple, de l'export PDF, qui existe maintenant dans OpenOffice depuis quasiment 2 ans ou plus de 2 ans, je ne sais plus, et qui, je ne sais même pas, est toujours disponible dans les autres. Bon, typiquement, il se trouve qu'on a eu la chance, c'est qu'Adobe a renoncé à faire, comment dirais-je, à rendre payant l'utilisation de ses brevets quand on implémente le format. Donc ça simplifie aussi grandement les choses, la position d'Adobe, à juste titre d'ailleurs, puisque ça a permis quand même une grande diffusion du format. Donc ça, c'était tactiquement assez intelligent. Mais tout ça nous a permis à nous, sur la demande des utilisateurs, en disant, eh bien effectivement, allons-y, implémentons un petit bouton qui s'appelle exporter en PDF. Et on l'a fait assez facilement, d'autant plus qu'il y avait déjà une offre assez considérable d'export PDF dans le domaine du logiciel libre. On l'a intégré rapidement dans les développements standards d'OpenOffice. Ce qui fait qu'une fonctionnalité qui était relativement complexe à mettre en œuvre que d'aller transformer un document quel qu'il soit en PDF est devenue, ni plus ni moins, que l'histoire d'un clic dans OpenOffice. Montrer là typiquement que dans le cadre cette possibilité de rentrer en interaction avec le besoin d'utilisateur, on trouve d'emblée des solutions qui, quand elles ne sont pas dans le mode, disons, action-réaction au niveau fournisseur-utilisateur, mettent plusieurs années, hein, donc des choses beaucoup plus lentes. Donc on voit très bien que là, il y a par contre une qualité d'utilisateur et une réponse aux besoins qui est certainement beaucoup plus grande.
Donc on peut quand même espérer, en tout cas, que les difficultés ne sont pas insurmontables, en tout cas, pour investir un petit peu le logiciel libre dans les administrations. Bon, à part les obstacles qui sont celles de l'habitude, de la solution de facilité, d'autres obstacles qui peuvent être aussi la difficulté à trouver le produit qui existe, dont on a besoin, mais qui existe en libre. Je pense qu'il y a certains produits bien précis qui sont pas toujours évidents à trouver en libre ou qui ne sont pas suffisamment performants. Tu parlais tout à l'heure de l'agenda. Maintenant, quel est l'avenir un petit peu de tout ça des logiciels libres d'administration? Est-ce que vraiment vous pensez que ça va finir par vraiment s'homogénéiser? Ça va vraiment s'implanter comme, pour les différentes raisons qui ont été citées, hein, les différents piliers. Et sans parler de l'homogénéisation un petit peu des outils dans toutes les administrations, on parle des formats de documents, hein, donc des ODF qui sont quand même très importants, que quand il y a une administration qui envoie un courrier à l'autre, ben, qu'elle puisse être capable de pouvoir l'ouvrir, hein, de pouvoir le traiter et de pouvoir après y répondre, hein, de la même façon. Mais est-ce qu'on peut imaginer que même dans les applications, on retrouve un petit peu cette homogénéisation qui est des Firefox dans toute l'administration, qui est des Thunderbird, qui est des OpenOffice, j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'en tout cas dans les exemples d'autres pays qui sont carrément passés par la loi pour y arriver, est-ce que nous, en France, ou ailleurs, en tout cas ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, est-ce qu'ils sont appelés à venir vers ce système-là? Même si je sais que parmi nous, il y a beaucoup de défenseurs, en tout cas qui l'espèrent du moins, je pense.
Je pense que l'effet, les migrations qu'on peut constater, qu'il y a des migrations qui sont toutes les semaines des annonces de migrations un peu partout dans les administrations sur la planète. Je pense que de ce point de vue-là, j'ai pas trop d'inquiétude sur les aspects techniques, sur les aspects techniques ou économiques autour du logiciel libre pour qu'il y ait plus de logiciels libres dans les administrations. Ce qui est, en tout cas pour moi associatif, en tant que président de l'April, un problème plus inquiétant, c'est les changements du périmètre juridique et un certain nombre de contradictions entre les choix techniques faits par les administrations et les choix politiques faits par les responsables de ces administrations. Pour citer des exemples, on a dit qu'il y avait des utilisations massives de logiciels libres dans les administrations, mais c'est les mêmes administrations qui vont pousser la brevetabilité du logiciel en Europe. C'est aussi dans ces administrations-là qu'on va avoir, au ministère de la Culture, pousser un projet de loi comme la loi d'AFSI, qui est une attaque directe contre les logiciels libres. Ça, c'est des points qui sont plus inquiétants. Donc, je pense qu'à périmètre juridique constant, il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas encore plus de logiciels libres dans les administrations. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt les attaques et derrière le lobbying qui amène ces attaques sur les aspects juridiques pour rajouter des attaques contre le logiciel libre notamment.
Est-ce que ce n'est pas la réponse justement de ces fameux lobbies, hein, même si c'est que hypothétique, je ne lancerai pas dans ce genre de déclaration. Est-ce que ce n'est pas justement une réponse au logiciel libre de la part des éditeurs de logiciels propriétaires de se voir un petit peu embarquer un petit peu tout ce marché qu'est l'administration, qui est quand même, je pense, un marché quand même considérable?
C'est pas qu'une réaction au libre, mais c'est aussi une tendance naturelle d'un certain nombre de producteurs de contenu ou d'éditeurs de logiciels d'essayer de s'approprier un maximum les productions immatérielles et de fermer leur contenu, d'essayer d'obtenir un contrôle maximum sur les usages qui en sont faits, etc., et qui sont à l'opposé du logiciel libre et qui justement essaient de faire passer des lois pour qu'ils soient favorables à leur vue, disons.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer après que l'exemple, même si je vais laisser répondre à Eric et Jean-Paul sur tous ces sujets, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'exemple de l'administration va peut-être pousser aussi quelques entreprises à passer aussi dans ce domaine-là, dans le domaine du libre, plus que dans le domaine propriétaire?
Ce qu'on disait tout à l'heure, quand une administration bascule, elle va demander aussi à ses fournisseurs de fournir les données, tout ce qui est facturation ou autre, dans un format, facturation, devis et autres, dans un format qui soit lisible par l'administration. Ça a un effet considérable quand une administration prend ce genre de décision. Ça se joue sur les appels d'offres, ça se joue sur la facturation, ça se joue à plein de niveaux différents.
J'ai une question avant d'enchaîner.
Il y a une administration qu'on n'a pas citée. C'est, y a-t-il une incitation au logiciel libre ou à des choses équivalentes au niveau de l'Europe, de la Commission européenne ou des choses comme ça?
Oui, il y a un cadre commun d'interopérabilité. Hein, s'appelle. Je vous invite à le lire. C'est, vous avez sur le site du programme IDABC. Alors, je ne me souviens plus exactement ce que signifie IDABC. Mais la Commission européenne a produit, là aussi, il y a bien une dichotomie, mais je vais y revenir.
L'échange de données dans les administrations.
Ouais, mais il y a un cadre commun d'interopérabilité, hein, European Framework Interoperability, qui donne une définition d'ailleurs du standard ouvert, qui est plus complète que celle de notre loi. Et puis aussi qui engage à l'utilisation des standards ouverts et qui considère que les logiciels libres sont une
sont une bonne voie. Et ceci m'a même été... En 2001, je crois, il y a eu une... je ne me souviens plus du lieu, au Portugal, une action commune des ministres de la Commission européenne, des commissaires, pour engager à l'utilisation des logiciels libres. Donc il y a une véritable volonté. Ça me permet de rebondir de toutes les façons sur ce que disait Benoît tout à l'heure, hein, parce que là aussi, à la Commission européenne, on voit bien qu'il y a deux tendances. Il y a aussi des tendances à pousser à l'usage des brevets logiciels, ou à enfermer les usagers dans des pratiques propriétaires, ou favoriser des sociétés qui fournissent du contenu, favoriser des éditeurs, enfin, en quelque sorte privatiser des biens communs, finalement. Bon, ça revient à cela. Donc il y a ces deux tendances, et je voudrais rebondir sur ce qu'il disait, parce qu'il ne faut pas mélanger les administrations et les ministres ou la gouvernance de ces administrations. Hein. Les administrations sont neutres politiquement. Aujourd'hui, dans les administrations, on trouve énormément de personnel, hein, aux fonctionnaires, de gens qui travaillent dans les administrations, qui sont majoritairement très près de... pour l'utilisation des logiciels libres. Mais d'ailleurs, je relève que lors du débat sur les droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information à l'Assemblée nationale, j'ai pas entendu beaucoup de députés qui s'exprimaient à l'encontre, en opposition de l'utilisation des logiciels libres. Je crois qu'il n'y en a aucun. Après, il y a certaines voix qui se sont élevées, notamment auprès des sénateurs. Bon, je pense qu'il ferait mieux d'arrêter de faire leur métier, quoi. Est-ce qu'ils étaient vraiment capables de pouvoir exprimer un point de vue opportun sur cette question? Bon, on peut se poser la question. Surtout qu'en fait, ils étaient les seuls à l'exprimer. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Quand on dit le ministre de la Culture, on ne dit pas le ministère de la Culture. C'est fondamental. Hein. Le ministre de la Culture est le ministre du ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture, c'est aussi un ensemble où vous avez énormément de fonctionnaires, d'administrés, hein, qui sont... Par exemple, puisque le ministère de la Culture s'occupe des archives, hein, pour faire en sorte que les archives puissent être maîtrisées dans le temps, être pérennisées, et donc pour cela souhaite utiliser au maximum des standards ouverts.
Leurs postes sont plus pérennes que celui du ministre.
En plus, enfin bon, après il y a les lois qui tombent, et les lois peuvent remettre pas mal de choses en question. Peut-être d'autres questions par rapport à ce sujet, oui. Ah, attendez, juste.
Moi, j'ai vécu il y a quelque temps un problème de timing, en fait, entre la communauté et les besoins de l'administration. Et ce n'est pas toujours facile de répondre à un appel d'offres par une communauté, je dirais. Ça, c'est bon, il y a eu l'histoire de SPIP et d'Agora, par exemple, où la communauté SPIP avait certaines envies. Les ministères voulaient prendre SPIP, mais avec d'autres spécificités. Et ça a fait un fork, bon, qui a donné ce qu'il a donné, et c'est vrai que des fois le timing n'est pas le même, quoi. Faire un appel d'offres pour un logiciel, bon, je sais pas, la gendarmerie, je crois, développe Orion, je crois. Hein.
Comment ça s'appelle?
Non, si, c'est Orion. Quel Orion?
C'est
la gestion des postes.
La gestion de parc.
La gestion de parc, il y a Orion.
OCS Inventory.
OCS Inventory, voilà. Et donc, je ne sais pas comment vous faites pour le faire avec la communauté, quoi. Parce que là, faut avoir des c'est pas dans le cas d'un appel d'offres. Ça va être en interne, on développe. Ouais. J'ai le cas d'AdmiSource, qui est une expérience intéressante. Et nous, on va essayer de mettre en place sur AdmiSource, en fait, des produits qu'on fait un peu développer, améliorer, à charge pour les autres d'aller plus loin, quoi. Mais c'est pas très facile. Le timing n'est pas le même, quoi, quand même.
Bon. Et est-ce que vous avez essayé de discuter avec un éditeur, et est-ce que c'est plus facile? Allez voir un éditeur en disant j'ai besoin de ça, et il vous répond quoi?
Parce que quand on va voir, enfin moi je vais pas voir des gros éditeurs, mais je sais qu'au niveau du ministère ça se passe comme ça. L'éditeur, vous lui dites c'est 1 million d'euros, il dit oui. Hein.
SAP, ils vous disent oui pour 1 million d'euros?
Donc, il dit oui, bon, après, on a eu des emmerdements pendant 3 ans, mais, et ça n'a pas tourné. Mais au début, il dit oui, il n'y a aucun problème. Et puis, nous, on est presque maintenant formés à répondre à des appels d'offres et à. Je dirais qu'on vient des informaticiens qui faisons des appels d'offres. Et ça devient un petit peu très frustrant, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure. Hein, ça devient quelque chose où.
C'est la question qui est posée, ça. Elle est fondamentale, hein, la question que vous posez. C'est comment nous on peut travailler avec les communautés. Donc il y a plusieurs modèles. Hein. Je vous remercie pour Demi Source aussi parce que j'en suis le père et donc j'en suis fier. Il y a plusieurs modèles. Alors effectivement vous avez cité le premier cas que vous ayez cité, SPIP, Agora. Et l'exemple type du mauvais exemple, hein, parce que finalement il y a eu un fork. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, quand une administration souhaite faire évoluer un produit open source, il a deux possibilités. Soit il fait comme la gendarmerie, il prend au CS Inventory, et finalement il a des développeurs, il fait rentrer ses développeurs dans les communautés. Je vous ai dit, ça c'est quand on est techno, hein. C'est quand on est technicien, quand on a les capacités d'avoir des développeurs, c'est extrêmement rare. Hein. Finalement, encore une fois, c'est pas le cœur de notre métier. Sinon, comment faut faire? Eh ben, il faut passer par un appel d'offres, c'est-à-dire faire une demande, un appel d'offres pour dire, ben voilà, moi j'ai vu tel produit, j'aimerais pouvoir le faire évoluer. Et donc, on s'adresse à un prestataire. Et donc là, on voit bien qu'on est sur le modèle économique du logiciel libre. Hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, rentrent en compétition des sociétés de services qui font du développement, qui sont rémunérées pour faire ces développements et qui les reversent à la communauté. Le cas du SPIP Agora, le problème, c'est que le reversement à la communauté n'a pas été inclus dès le départ dans le processus. En tout état de cause, la communauté n'a pas été partie prenante. Voilà. Donc, dès le départ, mon expérience, c'est qu'il faut faut impliquer la communauté dans son besoin. Alors, on l'a fait, nous, à la DAE, à l'époque, autour du projet du produit GAN Project. C'est un outil de gestion de projet de dessin, enfin qui permet de dessiner des diagrammes de Gantt pour faire la gestion de projet, enfin, pour faciliter la gestion de projet. Et nous avons souhaité faire évoluer ce produit. Il était à peu près la version 1.1, et on l'a fait passer en version 2. Alors notamment, par exemple, il y a eu tout un tas d'apports. Hein, et on a qualifié tout le besoin. On est rentré en contact avec la communauté. On leur dit, ben voilà, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est travailler avec vous au travers d'une société, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, il y aura des développeurs qui seront rémunérés pour faire des propositions d'implémentation de telle et telle fonctionnalité. Donc, en gros, le cahier des charges, on l'a fait avec la communauté. On leur a dit, nous, ce qu'on souhaite, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Etc. Et donc, la communauté a été introduite dans la spécification du besoin. L'opération s'est déroulée. Maintenant, Gantt Project est à la version 2. Et la DAE a fait évoluer notablement le produit. Donc, c'est un vrai problème. Et ça, je pense qu'on va le rencontrer de plus en plus. C'est comment, nous, on peut faire évoluer des produits qui nous intéressent. Il y a plusieurs modèles et il n'y a pas de solution. Ce qu'il faut éviter, c'est les forks. C'est clair. Enfin, tant que faire se peut, éviter d'arriver à deux produits. Comme on le voit autour de SPIP Agora. Parce qu'après, ça devient très difficile à gérer, puisque SPIP continue à évoluer dans son sens. Agora ne récupère pas les modifications de SPIP, et ça crée une divergence.
Dans ce cas-là, la communauté, elle était bien identifiée comme étant des gens travaillant sur ce sujet-là?
Dans le cas de
Gantt Project,
ah oui, moi j'ai pris contact avec le leader de la communauté, hein, qui s'est avéré être un Français, et Alexandre Thomas, pour le citer, on est rentré en contact avec lui, et ensuite le chef de projet à la DGME, Julien Malik, a élaboré son projet en travaillant de concert avec l'entreprise et avec la communauté.
Moi, ça me permet de rebondir sur une question aussi qui m'est chère. On voit que l'administration sait profiter du phénomène qu'est le logiciel libre, et comment donc le logiciel libre, même s'il y a quelques pistes qui ont été déjà lancées, comment le logiciel libre, lui, va pouvoir profiter de ce qui est fait ou exploité dans l'administration. Alors bon, les projets qui sont portés après par l'administration en lien avec la communauté de développeurs, par exemple le Gantt Project 2 ou je ne sais, bon, à part quelques exemples. Alors comment ça se concrétise? Est-ce qu'on peut trouver dans l'administration un appui pour faire évoluer un logiciel? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui va permettre de donner une reconnaissance à un logiciel? Bon, je ne sais pas, peut-être Benoît pour commencer.
Il y a des aspects qui ont été mis en place par les administrations. Je pense en particulier aux forges, donc qui sont les outils pour permettre un développement collaboratif des logiciels, qui peuvent être des endroits où les administrations peuvent mettre les développements qu'elles ont faits, les développements qui leur sont propres pour leurs besoins. Pour tout ce qui est des collaborations sur des projets, le plus simple, c'est encore de reverser au fur et à mesure directement avec la communauté qui fait vivre le logiciel en question. Sinon, on arrive au genre de problème qu'il y a eu autour de SPIP et de SPIP Agora.
Et Eric, je ne sais pas, au niveau d'OpenOffice, même si bon, j'ai du mal à l'imaginer, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une administration ait besoin d'une spécificité précise ou d'une fonctionnalité qui pourrait être éventuellement, bon, tu parlais tout à l'heure de l'implémentation de la création de format, enfin de documents en format PDF. Bon, est-ce que si jamais une administration voulait s'investir là-dedans pour trouver pas une interopérabilité avec un autre logiciel qu'elle utilise dans une autre administration, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce type de collaboration entre la communauté du libre et l'administration qui voudrait mettre un peu les mains dans le cambouis?
Alors, bien évidemment, et c'est ce que je voulais dire par rapport à est-ce qu'on sent qu'il y a aujourd'hui une véritable tendance sur l'arrivée du logiciel libre dans l'administration, la réponse est bien évidemment oui. Il faut bien évidemment également élargir très largement le débat. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une planète qui est complètement mondialisée. On parle du marché BRIC, le Brésil, Russie, Inde et Chine, qui sont quand même tous des pays qui ont des taux de croissance économique qui sont entre 3 et 10 fois celle de la nôtre, par exemple. Et que si donc on se situe dans une mondialisation qui se poursuit, ce sont évidemment ces économies-là qui vont, à mon avis, dans une grande partie, faire les économies de demain. Or, ces pays-là sont des pays qui ont déjà massivement adopté le logiciel libre. Donc non seulement cette tendance est déjà perceptible chez nous, mais elle est déjà très largement entamée à l'extérieur. Donc dans le cadre de la mondialisation, aujourd'hui, ça me semble être quelque chose qui est tout à fait dominant et majeur. Est-ce que là-dessus, au niveau européen, les choses se passent aussi bien? Il me semble qu'effectivement, on l'a déjà cité, que l'Europe est parfois un peu plus sensible à d'autres champs de CIRED, mais bon, la lutte continue, hein, on va dire, sur ce plan-là. Alors après, est-ce que Sun, par exemple, pourrait collaborer, par exemple, avec, je ne sais pas, le gouvernement brésilien, comme par exemple, ça c'est le cas aujourd'hui, sur des fonctionnalités particulières qui n'existeraient pas dans OpenOffice, et dans lesquelles, par exemple, nos équipes de développement pourraient travailler? C'est tout à fait possible. Typiquement, pour sur ce qu'on pourrait faire également autour de Java, et ce qu'on fait d'ailleurs déjà autour de Java, par exemple, pas spécifiquement avec des gouvernements, mais par exemple avec des regroupements industriels qui sont parfois financés par des gouvernements, comme c'est le cas par exemple de la Corée. Donc il existe un groupement d'industriels dans le domaine de la téléphonie mobile qui est financé à 100% par le ministère des Télécommunications et qui travaille aujourd'hui sur une implémentation particulière des machines virtuelles Java dans les téléphones qui permettent par exemple d'exécuter du code à la fois donc Java et d'autres codes donc, qui pourraient être compilés sur des compilateurs C++ par exemple. Donc ça c'est un projet qui s'appelle le projet WIPI en Corée et qui fait l'objet d'une collaboration entre Sun et ce groupement industriel coréen. Alors, on n'est pas dans l'open source, mais typiquement c'est évidemment ce type de collaboration qu'on pourrait voir et qui pourrait par rebond intéresser les administrations, bien évidemment.
Alors, autre aussi intérêt, parce que là, on pourrait donc parler du développement des logiciels libres, c'est-à-dire les faire évoluer grâce à l'administration. Mais est-ce que l'administration ne peut pas être aussi un tremplin vers le logiciel libre par les administrés, j'allais dire? C'est-à-dire, en clair, est-ce que le fait qu'une administration utilise des logiciels libres, est-ce que c'est pas assez... ça permet de donner un peu plus de crédibilité déjà au logiciel libre? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de promotion, on va dire, pour le logiciel libre, sachant que, généralement, le logiciel libre vis-à-vis du grand public n'est peut-être pas aussi bien armé que les logiciels propriétaires qui ont toute une armada de communicateurs commerciaux ou marqués market ou je ne sais quoi. À ton avis, Benoît, est-ce que toi, qui es l'association quand même pour la promotion de la recherche en informatique libre, est-ce que tu ne crois pas que c'est, l'administration peut être un tremplin assez, même, assez intéressant et rassurant même?
Il y a différents aspects. Il y a alors bien évidemment un aspect d'image, de dire voilà, les administrations utilisent du logiciel libre. Ça permet, un, de les faire connaître auprès du grand public, puis ça peut aussi avoir un effet rassurant. Il y a d'autres aspects qui sont... alors, ce que je disais, d'un point de vue entreprise, c'est plutôt des relations clients-fournisseurs qui vont faire entraîner des migrations ou permettre des migrations. D'un point de vue du grand public, c'est plutôt le fait que tous les sites web gouvernementaux respectent les normes et les standards et qu'ils n'imposent pas un logiciel pour leur accès, que tout ce qui est production de contenu public soit dans des formats qui soient lisibles. Donc je pense au groupe France Télévisions qui pourrait diffuser dans des formats ouverts ces vidéos, entre autres. C'est plutôt ces aspects-là qui vont jouer et qui vont avoir un aspect sur le grand public. Mais il y a d'autres aspects qui jouent, c'est aussi... tout ce qui est autour de l'administration électronique, c'est surtout dans quel format seront les formulaires qui sont fournis aux usagers, comment est-ce qu'ils doivent répondre et transmettre les documents, etc. Et il y a un aspect qui est un aspect important qui est via l'éducation et tout ce qui est éducation nationale, c'est quels sont les logiciels qui sont utilisés et qui sont utilisés pour l'éducation, mais pour la pédagogie notamment, qui peuvent jouer directement sur le grand public.
Moi, je ne sais pas, moi, face à tant d'engouement, hein, enfin, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais je me mettrai à la place des éditeurs de logiciels propriétaires. Bon, ils devraient quand même commencer à craindre certaines choses. Alors, on parlait tout à l'heure éventuellement de pression qu'ils pouvaient faire auprès des gouvernements, des ministres à ce moment-là, et pas des ministères. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à une révolution, à un changement complet un petit peu de cette industrie des outils informatiques, des logiciels et autres? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le libre, malgré le peu de force et de ressources qu'il doit avoir, qu'il a comparé, j'entends par la ressource pécuniaire entre autres, comparé au logiciel propriétaire, est-ce qu'il n'est pas sur le point éventuellement de gagner une bataille, voire plus loin? Est-ce que moi je sais pas, moi c'est l'idée que je vois après donc ce débat, c'est qu'apparemment il y a quand même de belles perspectives pour le logiciel libre.
Il y a des aspects qui sont des changements de modèle économique qui sont en train de se passer, et c'est bien pour ça qu'il y en a qui résistent et qui essaient de faire passer des lois pour empêcher des changements électroniques qui peuvent être dus à la révolution numérique, au fait qu'il y ait des réseaux disponibles, etc. Il y a aussi des aspects qui sont liés à... Pardon. Il y a aussi des changements... il y a des changements à faire et des changements de mentalité qui sont à faire du côté des industriels. Il y a des choses qui sont plus vraiment acceptées, qui sont sur les aspects monopoles, on assiste à des attaques de ce point de vue-là, qui est des États qui refusent d'avoir des positions dominantes avec des abus de position de monopole. C'est des choses qui passent de moins en moins bien. Qu'il y en ait qui essaient de résister de ce point de vue-là, c'est logique, ils défendent leur modèle économique. N'empêche que il y a quand même une croissance importante côté logiciel libre, c'est des croissances à deux chiffres. Il y a un changement qui est en cours et il est clair que ceux qui résisteront complètement, qui feront aucun effort pour s'adapter, ça leur coûtera très cher.
Tout à fait, cette idée qu'aujourd'hui les moyens qui sont dédiés aux logiciels libres sont moins importants que ceux qui sont dédiés par l'industrie des logiciels non libres. Quand on voit aujourd'hui la cartographie des acteurs qui sont impliqués dans les logiciels libres, en dehors de certains, ce sont quand même des très gros acteurs, IBM, Sun, Oracle, même SAP d'ailleurs, sont tous des contributeurs à leurs différentes hauteurs. Comment dirais-je, au logiciel libre ou au mouvement du libre au sens large. Donc aujourd'hui, le libre est une composante majeure de l'industrie du logiciel qui est dotée de moyens tout à fait considérables. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est aujourd'hui dans des batailles, cette bataille qui se situe aussi bien sur le plan économique que politique, et quasiment de moins en moins sur le plan technologique. Parce que derrière, eh bien, on est en termes de fonctionnalité, de qualité, de moyens, dans des structures tout à fait équivalentes. Pour revenir à la question sur la partie, est-ce que par exemple les administrations donnent aujourd'hui l'exemple, je pense qu'il y en a quelques-unes qui le donnent. Je me souviens très bien d'être allé sur le site de l'Attica pour vérifier que les documents étaient bien publiés en plusieurs formats. Et j'ai vu avec beaucoup de plaisir qu'il y avait un point doc, un point SXW à l'époque, et un point PDF systématiquement sur tout ce que produisait l'Attica. Je dis, c'est bien, je ne sais pas si je n'ai pas vérifié si dans le cadre de la DAE c'était toujours le cas, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais bien vérifié. Pour citer un exemple de Jonathan Schwartz, qui est notre PDG américain, a mis sur son blog le fait qu'il y a donc eu à un moment donné une note d'information multimédia qui a été diffusée par l'État de Californie et qui nécessitait d'utiliser Windows Media Player. Et que donc, il y a eu toute un groupe de citoyens californiens qui ont demandé à ce que l'État de Californie n'impose pas à la fois l'utilisation d'un logiciel d'employeur qui surtout nécessitait l'installation d'un système d'exploitation, en l'occurrence celui de Microsoft, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'implémentation de Windows Media Player autre que sur Windows. Ce qui veut dire qu'aussi qu'il faut que les citoyens prennent en quelque sorte leur vie numérique. Et il en est de même sur l'utilisation des formats, sur des logiciels, que sur leurs différentes libertés numériques, et de là l'importance, par exemple, d'un protocole que la Liberty, qui est basé d'emblée sur la possibilité, plutôt sur l'obligation volontaire du possesseur de l'identité de savoir quel va être le degré de traçabilité de sa vie numérique. Donc il faut évidemment qu'il y ait un niveau de conscientisation du citoyen dans sa vie numérique qui soit beaucoup plus grand. Et là-dessus, est-ce qu'il y a une volonté des administrations globales au niveau mondial d'aller sensibiliser ses citoyens par rapport à cela? Je pense qu'on en est au début, mais il faudra que ça soit fait, oui.
Bon, ben, on va bientôt arriver au terme de cette table ronde. Alors, peut-être un petit mot de fin pour conclure, peut-être, selon chacun des axes que vous portez de par vos postes, votre position en tout cas, justement sur cette administration en logiciel libre. Pourquoi, comment l'avenir, je ne sais pas si vous avez deux, trois mots à rajouter, à moins que dans la salle il y ait des questions supplémentaires, non, qui... Non, en tout cas, sur le chat, ça n'a pas foisonné, mais bon, c'est pas grave. Alors, je ne sais pas, je t'en prie, Eric, non, tu te sens un petit mot de conclusion, espoir.
Un espoir, bien évidemment, nous sommes extrêmement optimistes pour le logiciel libre, et c'est pour ça qu'on en fait de plus en plus. Et on l'a annoncé il y a de cela 15 jours que même Java, qui était un élément qui, pour l'instant, n'est toujours pas dans l'open source, va le devenir avec un échéancier qui, pour l'instant, reste à définir. Mais nous avons annoncé que Java serait dans l'open source au même titre que la quasi-totalité des technologies Sun aujourd'hui. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc là-dessus, nous sommes extrêmement optimistes. Nous pensons, encore une fois, j'ai déjà dit, que le logiciel libre, dans son mode de fonctionnement, est déjà à la fois un processus industriel totalement entériné et un mode de développement qui a déjà fait ses preuves quant à la qualité, à la capacité à fournir d'excellentes réponses industrielles aux besoins qui sont actuels, mondialisés, multilingues, multiculturels et géographiquement tout à fait dispersés. Donc ça nous semble aujourd'hui complètement entériné sur ce plan-là. Vis-à-vis des administrations, il nous semble encore une fois, comme je l'ai mentionné, qu'elles sont à la fois partie prenante de ce mouvement, conscientes des enjeux et capables de pouvoir s'investir et de participer au même titre que l'ensemble des industriels à ce mouvement-là. Comme je l'ai mentionné aussi, la bataille peut-être ne fait que commencer, qu'il y a des décisions qui sont aussi bien politiques qu'économiques et qui restent à prendre, et dans lesquelles aujourd'hui, on voit que les enjeux, les individus, voire pas même parfois les gouvernements, tentent de rentrer dans le jeu et d'être partie prenante au niveau des acteurs, avec parfois plus ou moins de bonheur, mais nous restons, nous, aussi bien sur le plan mondial que sur le plan français, tout à fait optimistes.
Benoît.
Comme je le disais, il y a eu, toutes les migrations en cours me réjouissent plutôt. Ça me réjouit d'autant plus que là, on parle des administrations. C'est d'un point de vue citoyen, c'est plutôt satisfaisant de voir qu'il y a une utilisation intelligente et pérenne de l'argent public et qu'on pense qu'il y a des aspects comme l'avenir qui est pris en compte. Parce que si une entreprise fait des mauvais choix et qu'elle disparaît, bon, en tant que citoyen, ça m'affecte pas tant que ça. Par contre, une administration, j'attends qu'elle soit encore là si j'ai besoin d'accéder aux données numériques qu'elle détient sur moi dans une dizaine d'années, voire plus, à la fin d'une vie. Il y a des garanties de pérennité à avoir de ce point de vue-là. Et c'est des aspects qui sont intéressants sur le, et importants sur tout ce qui est l'interopérabilité des formats ouverts et que le logiciel libre peut permettre de, d'apporter. Il y a d'autres points, c'est que dans le cadre de tout ce qui est administration électronique, il y a un rôle important à jouer sur ces questions-là d'interopérabilité de formats ouverts et de permettre aux citoyens d'avoir le choix de ces logiciels et de pouvoir pleinement participer à toutes les décisions autour de l'administration électronique, d'avoir une vraie vie participative sur ces questions-là aussi. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, les points négatifs sont plutôt sur les aspects juridiques et les législations en train d'être passées à différents niveaux, que ce soit au niveau européen avec la brevetabilité des logiciels ou au niveau national maintenant pour la transposition d'une directive européenne. Avec le projet de loi d'AFSI, c'est plutôt là que sont mes inquiétudes de ce point de vue-là.
Jean-Paul, peut-être.
Oui, dernier mot. En fait, on est au début d'une histoire qui a déjà bien commencé, mais le logiciel libre maintenant, je pense que tous les acteurs ont bien compris qu'il était devenu incontournable, que la vague était là, que le tsunami était arrivé et qu'il fallait faire avec. J'entends que certains l'ont compris, des industriels, de nombreux industriels l'ont compris, certains ne l'ont pas compris, à mon avis. S'ils réagissent pas vite, ça va être difficile, de plus en plus difficile pour eux. Et pour cela, aujourd'hui, leur seul rempart qu'ils cherchent à mettre en avant est celui de l'innovation, de soi-disant innovation, en disant que les logiciels propriétaires seraient plus innovants que le logiciel libre. Et là, je m'inscris complètement en faux. On peut le démontrer simplement par le fait que sans les logiciels libres, l'Internet ne serait pas là aujourd'hui. Et que l'Internet s'est construit avec les logiciels libres et que les logiciels libres se sont construits avec l'Internet. Et ceci signifie que le logiciel libre, il y a un mouvement participatif énorme. Il y a une communauté, un mouvement participatif et une envie de construire ensemble. Et je pense que c'est un des points forts. Les administrations l'ont bien compris. Elles en bénéficient, mais aussi elles ont compris aussi que pour continuer à en bénéficier, il fallait maintenant mieux rentrer dans le jeu s'impliquer plus dans le développement des logiciels libres, mais plus seulement dans l'utilisation. Et pour cela, il y a des actions qui se mènent tant au niveau du gouvernement qu'aussi au niveau des associations. Je pense qu'il manque ici une grande association de support des logiciels libres dans l'administration, c'est la DULACT, hein. On aurait dû en parler plus tôt. Je les salue et je les remercie pour leurs actions.
Bon, en tout cas, j'espère, moi, c'est que les administrés comme les administrateurs et comme d'autres vous auront bien entendu, en tout cas, sur ce sujet. Je vais remercier donc Éric Mahé, Benoît Cibot, Jean-Paul Legorzuma pour leur intervention qui a été très, très enrichissante. Je pense que beaucoup ont beaucoup appris. Je remercie Thomas aussi à la régie quand même et puis qui a organisé un petit peu tout cela. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée en vous annonçant la prochaine table ronde qui aura lieu, je vais vous lire ça tout de suite, mardi prochain, et qui aura pour thème donc la solidarité numérique, le mardi 6 juin, toujours à la même heure, à 18h30, à savoir que vous pourrez le suivre soit dans l'Agora du Carrefour en Amérique, soit en ligne via la web radio du Carrefour, avec, n'oublions pas, le fait que vous pouvez aussi participer via le chat. Je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.